Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire destinés aux professeurs de collège et de lycée et naturellement à tous les passionnés. Nous entamons ce jour une série de deux émissions un peu spéciales ou j'allais dire plutôt paradoxales. En effet, le programme de collège aborde la question de l'affirmation du pouvoir des Capétiens. Et il y eut de fait un miracle capétien, celui d'une succession de père en fils sans interruption de la fin du Xe siècle au début du XIVe siècle. Or, cette succession fut interrompue au profit des Valois après trois ultimes règnes, ceux des fils de Philippe le Bel, Louis X, Philippe V et Charles IV. Maurice Druon, vous le savez, les appelait les rois maudits. Mais qui furent ces derniers Capétiens? Faut-il les réhabiliter? Ont-ils joué un rôle dans l'affirmation du pouvoir royal? Bref, peut-on se contenter de cet adjectif de maudit et voir ainsi au-delà? C'est ce que je vous propose de voir dès aujourd'hui avec Christelle Balouza-Loubet. Christelle Balouza-Loubet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'Université de Lorraine à Nancy. Vous avez été l'auteur d'une biographie de Mao d'Artois qui a été remarquée. Vous venez de publier chez Passé Composé un triptyque, j'allais dire plutôt un quadriptyque, je vais l'expliquer après, sur Louis X, Philippe V et donc Charles IV, les derniers Capétiens, ce sont nos fameux rois maudits. Alors pourquoi quadriptyque? Parce que cet ouvrage se divise en quatre parties. La première partie, qui fera l'objet de la première émission, est consacrée au fond aux dernières années du règne de Philippe le Bel et à au fond l'éducation de ces deux rois. Et je souhaitais que nous arrêtions sur cette éducation et sur l'importance en fait de l'éducation royale. Peut-être ma première question, Christelle Balouza-Loubet, avant, ces personnages nous apparaissaient d'abord comme des personnages de littérature. Vous avez souhaité, en quelque sorte, en réhabiliter l'historicité.
Alors, oui, c'est tout à fait la démarche, parce que c'est des rois que j'ai beaucoup rencontrés dans ma propre recherche. Puisque lorsque j'ai travaillé sur Mao d'Artois, finalement, ce sont des rois que je voyais apparaître, graviter autour de la comtesse d'Artois, et aussi tout simplement dans les colloques que j'ai fréquentés, où mes collègues, comme Elisabeth Laloux sur Philippe le Bel, Olivier Canto, Elisabeth Braun sur Louis X, Philippe V, ont apporté un nouveau regard aussi sur ces rois, que j'avais envie de creuser. Donc comme tout le monde, en fait, je connaissais la légende des rois maudits, j'ai lu l'intégralité des rois maudits de Maurice Druon, mais l'idée, c'était voilà de montrer que ça n'était pas une simple parenthèse, mais qu'il y avait une véritable importance de ces trois règnes. Voilà un petit peu l'objet de ce livre.
C'est-à-dire que la littérature a forgé des chroniqueurs jusqu'à nos jours, au fond, une image négative, une image sombre de ces règnes.
Oui, tout à fait. Même les contemporains, en fait, ont dès le départ été frappés par déjà la brièveté des règnes, par l'absence de descendance mâle successive. Et dans une société qui était fort marquée par un esprit judéo-chrétien, on a cherché à expliquer ceci par une faute qui aurait été commise, en particulier par Philippe le Bel, puisque la malédiction a été jetée sur Philippe le Bel et sa descendance. Donc en fait, les trois rois dont il est question ici ne sont que des victimes collatérales, j'ai envie de dire, des actions de leur père. Et donc voilà, on s'est dit qu'il y avait une faute qui avait été commise, et donc dans les chroniques, dès le XIVe, XVe siècle, ce sont des règnes qui sont complètement dévalorisés par rapport à ceux des grands rois qui ont précédé, comme Philippe Auguste, Louis IX, Philippe IV le Bel, justement. Et donc il y a toute cette image, et finalement Maurice Druon ne fait que se placer dans une tradition qui est déjà très ancienne. Il ne fait que reprendre finalement cette tradition très négative en accent, et c'est un petit peu là je trouve l'idée de génie qu'il a eue, en accent ça sur l'idée de la malédiction, puisque ça fait toujours un petit peu rêver tout le monde, cette idée d'une malédiction qui aurait pesé sur cette dynastie finissante.
Vous citez au début un journaliste, Georges Martin, dans le Guardian, qui écrivait « Les rois maudits ont tout, des rois de fer et des reines étranglées, des batailles et des trahisons, des mensonges et de la luxure, de la tromperie, des rivalités familiales, la malédiction des Templiers, des bébés échangés à la naissance, des louves du péché et des épées, le destin tragique d'une grande dynastie, tout cela ou presque directement sorti des pages de l'histoire. Croyez-moi, les Stark et les Lannister n'ont rien à envier aux Capétiens et aux Plantagenets. » La difficulté d'apporter un regard d'historien, vous le soulignez dans votre introduction, c'est la multiplicité des sources. Alors qu'on pourrait se dire au fond, les regards sont sombres, fermez le banc. Non, il y a une multiplicité de sources et le sujet n'est pas si facile à aborder.
Non, effectivement, il y a une multiplicité de sources, mais malheureusement, la différence de ce qu'on peut en voir en histoire contemporaine, pas des sources qui nous renseignent directement sur la personnalité des princes. On n'a par exemple pas de correspondance personnelle, on n'a pas de mémoire ou d'écrit qui nous permettrait de savoir qui ils sont. Donc en fait, c'est une richesse parce qu'on a les chroniques qui nous en parlent beaucoup, mais de manière finalement assez superficielle, mais qui permettent quand même de retracer le fil des règnes. Et puis surtout, on a des milliers de documents, ce qu'on appelle les documents de la pratique, c'est-à-dire des documents qui servent à gérer, à gouverner le royaume, donc que ce soit les comptabilités, que ce soit les ordonnances, les actes de chancellerie, les registres de parlement, et là qui nous permettent finalement de voir quelle a été l'action politique de ces rois. Et à travers leur action politique, même si jamais on ne pourra complètement deviner quelles étaient leurs intentions, on arrive quand même à déterminer un programme et à voir qu'il y avait quand même une volonté de régner et que ces rois ont mené un programme politique, en particulier Philippe V, mais je pense qu'on y reviendra.
Alors nous reviendrons sur les programmes et les règnes à proprement parler lors de la deuxième émission, cette première émission sur les dernières années du règne de Philippe IV le Bel, qui est un règne extrêmement important, et sur l'éducation royale, comment s'élèvent au fond des princes. Alors, toute histoire commence par la naissance, et cette naissance, aussi bizarre que cela puisse paraître, n'est pas si facile à établir pour les trois futurs rois et les trois frères.
Oui, tout à fait. À l'époque médiévale, on s'intéressait à l'héritier. Donc, on a la date de naissance de Louis qui apparaît dans les chroniques. En plus, c'est le premier enfant de Philippe IV et de son épouse. Donc, là, c'est tout à fait daté. Mais les autres frères, finalement, et Isabelle, et la dernière, donc j'ai envie de dire la dernière née Isabelle, eux ne sont pas du tout documentés dans les chroniques. On n'a pas du tout de registre non plus de naissance qui nous permettrait de savoir exactement quand ils sont nés. Donc, on est obligé de faire des déductions, effectivement. Alors, ce sont des déductions en particulier. Bon, moi, je me suis livrée à des déductions à partir de la date de mariage, puisque les rois sont généralement mariés dès qu'ils le peuvent, donc à 14 ans. Donc, ce qui permet, par simple soustraction, de déterminer l'âge de naissance, et ce qui est cohérent de toute façon avec le rythme des naissances qui était connu pour l'époque médiévale. Oui, pardon.
Oui, je vous en prie. Une fois les enfants nés, le baptême est important, et on découvre à travers votre ouvrage qu'il y a une véritable cérémonie extrêmement importante pour la France au fond.
Oui, en fait, c'est un véritable acte politique, le baptême. Alors, on a la chance d'être documenté pour le baptême de Charles IV, donc on peut en déduire que les baptêmes, en particulier de l'héritier et du frère précédent, Philippe, sont déroulés de manière comparable. Mais c'est une véritable démonstration politique, puisque tous les grands viennent faire acte de présence. C'est aussi pour le roi le moyen de distinguer ceux qu'il souhaite récompenser, en quelque sorte, de leur fidélité, puisqu'il peut en faire les parrains-marraines, ce qui est donc une situation tout à fait enviable dans le royaume. Et c'est aussi un moyen de célébration aussi avec la population, qui vient assister en masse. Là encore, les documents qui portent sur le baptême de Charles IV nous apprennent qu'il y a vraiment une foule qui vient assister, donc c'est vraiment une cérémonie de communion aussi avec la population, qui finalement est assez rare. Alors, une communion quand même à distance, hein, puisque la population est quand même maintenue à l'écart, ne peut pas franchir le portail de l'église. Mais ça permet quand même d'approcher la famille royale et de participer, ne serait-ce qu'en étant à l'extérieur du bâtiment, à cette cérémonie.
Quel est le rôle de la femme dans l'éducation du prince ?
Alors la femme est essentielle, j'ai envie de dire, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, dans les premières années, jusqu'à ce qu'on appelle l'âge de raison, c'est-à-dire environ 7 ans, c'est dans un entourage quasi exclusivement féminin que vont être éduqués ces petits princes, puisqu'ils vont d'abord être nourris par des nourrices, qui plus tard, une fois l'allaitement terminé, deviennent souvent leurs gouvernantes. Et puis, la mère, lorsqu'elle est alphabétisée, ce qui est le cas dans la famille royale, joue un rôle éducatif très important. C'est lié au développement à l'époque du culte marial et à la figure de Sainte Anne qui enseigne à Marie. Donc on encourage les femmes à avoir cette attitude d'enseignement et ce sont elles qui vont effectivement souvent apprendre à lire aux enfants au moins l'alphabet, puisque en tout cas dans la famille royale, ensuite on confie rapidement l'éducation à des précepteurs, aux confesseurs, etc.
Alors justement, vous soulignez le rôle des confesseurs et des précepteurs. Il y a une sorte de cursus honorum de l'éducation d'un prince.
C'est-à-dire,
est-ce qu'il doit passer par, est-ce qu'il apprend à la fois la politique, la géographie, ce qu'on appellerait les humanités au fond ?
Oui, alors ça c'est très difficile à savoir puisqu'on n'a pas de documentation précise sur les lectures par exemple qu'on faisait faire aux enfants, mais en tout cas on peut se fier à la littérature des miroirs aux princes, c'est-à-dire ces ouvrages qui étaient rédigés pour l'éducation des enfants que Louis IX avait déjà fait rédiger pour ses enfants et dans lesquels on a des préceptes, des conseils pratiques pour ce que doit être un bon prince, mais aussi des préceptes moraux. Donc plus finalement que des contenus scientifiques, j'ai envie de dire, on appellerait ça des contenus scientifiques aujourd'hui, sont plutôt des manières de se conduire. L'éducation, c'est un petit peu une forme d'imitation. On apprend à imiter ce que font en l'occurrence le père, l'oncle, c'est-à-dire les modèles masculins, mais on apprend aussi toute une éthique d'être un bon prince. On n'est pas encore dans l'image du prince de la Renaissance je vais peut-être un petit peu loin avec la Renaissance, déjà sous Charles de Valois, le prince sage. Alors quand je parle Charles de Valois, pardon, c'est Charles V, parce que là on va confondre. Mais sous la dynastie des Valois, Charles V avait mis en avant cette idée du prince savant, du prince sage. Là, à cette époque, j'ai pas l'impression qu'on en soit déjà là. On n'a pas encore cette bibliothèque d'ampleur comme ça existera sous les Valois. Donc c'est plutôt une formation pratique, j'ai envie de dire.
Pratique fondée sur l'imitation.
Oui.
Ce sont des princes qui savaient jouer aussi et on permettait ces jeux.
Oui, tout à fait. Ça, on a du mal à imaginer, mais bon, ce sont des enfants avant tout. Et donc, les contes, les contes royaux nous permettent pas de le savoir, mais des contes de princes contemporains nous permettent de savoir qu'on achetait des jeux aux enfants, qu'on leur faisait fabriquer des masques, des petits déguisements pour qu'ils puissent se jouer. Donc, il y a vraiment quand même une dimension tout à fait, une vision de l'enfance telle qu'on l'a. Ils jouaient à Colin Maillard. Enfin, il y avait vraiment de l'amusement. Et après, quand ils grandissaient, on commençait à introduire des jeux qui étaient plus liés à leur statut et à leur avenir, comme par exemple le jeu d'échecs, où on leur apprenait la quintaine pour qu'ils apprennent aussi à se battre. Mais c'était dans un second temps.
La cour est itinérante à cette époque. Est-ce à dire que les enfants suivaient systématiquement le père et la reine ?
Non, il pouvait y avoir des voyages qui se faisaient sans les enfants. On sait par exemple, lorsque Charles IV est baptisé, que ses frères aînés n'étaient pas là et que c'était la nourrice, qui était sans doute devenue gouvernante d'ailleurs entre deux, nourrice et gouvernante, qui gardait les enfants dans une autre résidence. Donc il y a des temps de séparation. En revanche, on sait que quand Philippe IV est parti faire son voyage en Languedoc, donc un voyage qui s'annonçait durer plusieurs mois, là il est parti avec femme et enfants. Donc on faisait en sorte que la séparation ne soit pas trop longue.
L'essentiel de ces voyages, sur le plan géographique, au fond, c'est l'Île-de-France pour ces princes ?
Ah oui, tout à fait, et en particulier, donc là, par exemple, Elisabeth Laloux l'a bien souligné dans ses travaux, les derniers Capétiens, Philippe IV et les derniers Capétiens, passent énormément de temps au bois de Vincennes. C'est elle qui utilise, en fait, l'expression disant que le bois de Vincennes, c'est la maison de famille des derniers Capétiens. Donc, ils sont vraiment dans cet entourage parisien, ce qui permet au roi grâce donc Philippe IV en particulier, c'est un roi qui adore chasser, donc ça lui permet d'être dans ces forêts giboyeuses du bassin parisien, donc pour lui c'est très bien. Et en même temps, si des affaires urgentes l'appellent dans la capitale parisienne, il peut s'y rendre assez rapidement. Mmh. Donc c'est vraiment, alors après il y a aussi le Vexin normand. Ils ont aussi des résidences dans cette région-là. Et les autres déplacements sont surtout guidés par des campagnes militaires ou des projets diplomatiques ou des nécessités de représentation, comme dans le sud du royaume. Mmh.
Votre livre nous plonge véritablement dans l'époque, c'est assez, même dans ses moindres détails, puisque vous présentez aussi les résidences royales comme des lieux où on gardait des animaux, et surtout des animaux étranges venus de très loin, tout simplement pour affirmer aussi sa puissance, sa richesse et oui, montrer sa puissance par rapport aux autres cours.
Oui, tout à fait. Les ménageries, c'est quelque chose qui est très ancien. Déjà à l'époque romaine, les empereurs avaient des animaux dits exotiques, donc qui n'étaient pas de la région dans laquelle ils vivaient. L'objectif, effectivement, souvent ce sont des cadeaux diplomatiques que l'on reçoit d'autres princes avec lesquels on a négocié, en particulier des princes musulmans. Ou... Donc c'est un moyen aussi de montrer qu'il y a ces relations qui existent avec ces princes lointains. C'est aussi une manière de montrer que, en tant que prince, en tant que roi, on est finalement au-dessus des lois de la nature, parce qu'en fait ce sont des animaux qui ne sont pas forcément adaptés à ces latitudes, mais le prince, le roi, lui, peut se permettre d'avoir des animaux. Donc il y a cette recherche un petit peu de l'exotisme, et ça frappe les esprits en fait, hein, de voir lorsque voilà, la ménagerie se déplace, bon c'est rarissime, hein, mais lorsque l'animal se déplace, c'est vraiment là encore une fois un spectacle pour la population.
Alors venons-en aux princes en eux-mêmes et à l'art de gouverner. Quelle était d'abord la relation de ces enfants avec leur père? Est-ce que Philippe le Bel était un père aimant, proche de ses enfants, ou au contraire un homme froid?
Alors c'est difficile, là ça va rester finalement des suppositions, mais l'impression que l'on a, c'est qu'il leur a pas en tout cas fait confiance très très rapidement. On voit que, donc là j'anticipe un petit peu, mais on a l'impression qu'il les a un petit peu étouffés. Alors, sauf, j'ai envie de dire, peut-être sur le plan militaire. C'est-à-dire que dans le plan de la formation militaire, il va leur confier très rapidement des responsabilités dans les campagnes dès les années 1310. Les princes vont pouvoir prendre la tête de contingents de l'Ost et partir à la bataille. Mais dans un premier temps, ils sont toujours chaperonnés, soit par leur oncle Charles de Valois, Louis d'Évreux, enfin ils sont jamais envoyés seuls. Ça n'est que au fil du temps qu'on va leur confier des responsabilités. Mais le cas le plus frappant, c'est quand donc Jeanne de Navarre va décéder en 1305, son fils Louis devient roi de Navarre, et Philippe IV, dans un premier temps, ne va pas l'autoriser à se rendre en Navarre. On a l'impression qu'il ne fait pas confiance à ses enfants, ou en tout cas qu'il essaye de repousser le temps auquel il va leur confier des responsabilités.
Est-ce que il y a une mutation absolument essentielle au XIIIe siècle, qui est le rôle des conseillers? Est-ce que les enfants, l'enfant qui a 12, 13, 14 ans, est-ce qu'il entre facilement au conseil?
Peut-être pas si jeune, mais en tout cas, il fréquente à la cour les conseillers, hein, qui sont là quasiment en permanence. C'est-à-dire qu'il faut imaginer effectivement que ces princes, donc je dis, il y a une éducation par l'imitation, mais aussi par la fréquentation des pères. À la cour de France, les enfants ne sont pas seuls. Il y a les cousins qui viennent, il y a aussi des princes d'autres cours qui viennent pour être éduqués à la cour de France. Donc en fait, il y a tout un monde que les trois petits princes vont croiser, et donc les conseillers, qui même s'ils ne participent pas au conseil dans un premier temps, vont sans doute les croiser, leur parler, etc. Il est difficile de dire à quel âge exactement ils rentrent au conseil, mais... sans doute après l'adoubement, vers 1313, 1314, participent-ils régulièrement? Alors ils ne sont pas mêlés aux décisions, on les voit pas actés en fait, hein, mais sans doute sont-ils présents, et peut-être avant d'ailleurs, hein, pour assister aux décisions qui sont prises, à la façon de prendre des décisions.
Alors on anticipe l'émission un peu de la semaine prochaine, mais on verra que Louis X commence moins bien son règne, qui sera très court, que Philippe V, qui lui s'impose véritablement. Comment expliquer, est-ce que cette différence vient précisément de l'éducation? C'est difficile que de l'affirmer.
C'est très surprenant, parce que justement Louis X, c'est lui qui a été préparé à être roi. Philippe V, beaucoup moins. C'est-à-dire, c'était Enfin, c'est très cruel ce que je vais dire, mais c'est le fusible. C'est-à-dire, si Louis X disparaît, effectivement, Philippe V, donc lui, il est préparé à être prince, à gérer un apanage, éventuellement à être roi. Donc c'est assez curieux, parce que Louis X, qui est censé être roi, ben, c'est celui qui semble le moins bien préparé. Alors c'est vrai que le décès de son père est un petit peu brutal, mais on a vraiment l'impression qu'il a peur un petit peu de la fonction. Alors je sais pas si ça vient de l'éducation, j'ai envie de dire que là ça serait plutôt des traits de personnalité, parce que les trois quand même sont éduqués de manière assez comparable, et on a l'impression que Louis X, il a un petit peu peur de sa fonction. Alors je vais peut-être faire une comparaison très hasardeuse, hein, mais en y repensant, je me dis c'est un petit peu comme Louis XVI qui voulait pas être roi finalement. Je me pose la question, est-ce que Louis X avait vraiment envie d'endosser cette fonction? On n'a pas l'impression, parce que quand il arrive au pouvoir, il tarde vraiment à prendre les choses en main, et il laisse vraiment quasiment carte blanche à son oncle. Comme si vraiment c'était trop pour lui.
Alors il y a eu aussi une mutation essentielle de l'époque qui consiste à faire de l'adoubement une cérémonie peut-être moins importante qu'elle ne l'était auparavant.
Oui, tout simplement parce que l'adoubement n'a plus ce rite d'entrée dans l'âge adulte qu'il avait avant. On le voit très bien avec les trois princes qui finalement sont mariés avant leur adoubement, commencent à mener des campagnes militaires avant même d'être adoubés. Donc il y a effectivement une scission finalement entre l'entrée dans l'âge adulte qui se fait bien avant l'adoubement. Malgré tout, on maintient la cérémonie parce que ça devient encore une fois une manière de magnifier la royauté qui offre, en l'occurrence en 1313, là, pour l'adoubement des trois garçons, une fête qui dure une semaine dans Paris. Donc là, c'est un moyen de souligner la magnificence, la générosité de la dynastie.
Et alors le mariage reste un mariage politique.
Ah oui, tout à fait. On choisit les demoiselles. Donc là, je vais pas rentrer dans la généalogie parce que c'est très complexe, mais on est entre cousins-cousines. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des demoiselles dont le sang soit pur, un sang capétien, puisque c'est elles qui vont porter le sang de France. Et bien sûr, donc il y a toute cette dimension-là dans le choix de l'épouser. Et puis, il y a la dimension éventuellement diplomatique ou territoriale. Donc, ça reste vraiment un contrat. C'est pour ça qu'on parle de contrat matrimonial. On négocie avant, aussi bien le douaire que la dot, mais on négocie aussi les territoires qui vont être attachés au royaume, dans quelles conditions, etc.
On se mariait d'abord, on s'aimait peut-être ensuite.
Oui, et effectivement, ce qui est assez surprenant, c'est que parfois, ça a mené à des unions heureuses. Philippe IV, en l'occurrence, semble, d'après les chroniques, et puis par simple indice, j'ai envie de dire, du fait qu'il ne s'est pas remarié, était très attaché à son épouse. Et de la même façon, Philippe V, est très attaché à Jeanne. Alors, il y a un moyen aussi de le mesurer, hein, qui est peut-être ce qu'il est, mais c'est le nombre d'enfants que produit aussi l'union, c'est-à-dire des gens qui fréquentent régulièrement la couche de l'un et de l'autre. Philippe a eu, et des trois, celui qui a eu le plus d'enfants aussi également.
Alors, vous terminez votre long chapitre, donc, dans l'ombre de Philippe IV, par cet épisode terrible, j'allais dire un peu terrible, mais terrible tout court, la tour de Nesle. Qu'est-ce que la tour de Nesle?
Oui, alors c'est la fameuse histoire de l'adultère, donc des deux brus du roi qui ont trompé leur mari. Donc en l'occurrence, c'est Marguerite de Bourgogne qui était l'épouse de Louis X et Blanche de Bourgogne, enfin ou d'Artois, hein, puisque c'est la fille de Mao d'Artois, qui trompe Charles IV. Donc en fait, ce sont des jeunes femmes à l'époque, hein, c'est vraiment des toutes jeunes femmes qu'on sans doute pas mesuré ce qu'elles faisaient. Elles sont tombées amoureuses de deux chevaliers, sauf que l'aventure a duré 2 à 3 ans, on ne sait pas exactement, et que c'est dans cet intervalle qu'est née la première fille de Louis et de Marguerite. Et ce qui pour nous aujourd'hui ferait la une des tabloïds, hein, et puis n'aurait peut-être pas finalement tant de conséquences à l'époque, c'est un problème politique majeur, parce que c'est le sang de France qui n'est plus pur. On n'est pas sûr en fait que la descendance soit légitime. Et donc ça prend une ampleur monumentale et Philippe IV se doit de réagir de manière très sévère, d'où la sévérité de la sentence, aussi à l'encontre de ces brus, puisque Blanche et Marguerite sont enfermées à Château-Gaillard, donc qui est quand même une forteresse bien peu accueillante, et Jeanne, qui est accusée d'avoir couvert les agissements de sa cousine et de sa sœur, est enfermée à Dourdan, donc ce qui est quand même très très sévère, et bien sûr une grande sévérité à l'égard des deux chevaliers qui subissent des tortures absolument ignobles au moment de leur exécution.
Alors arrive ce mois d'octobre 1314, Philippe IV est victime d'une chute de cheval, ce qui ouvre la succession.
Oui, alors ce qui finalement est assez qui surprend un petit peu tout le monde puisque c'est une mort accidentelle hein, donc on n'avait pas anticipé. Ça ouvre la période de la succession et là bon, il n'y a pas de question à se poser, ça fait maintenant plusieurs siècles que s'est imposé plusieurs centaines d'années que s'est imposé le principe de la primogéniture mâle, c'est-à-dire que c'est le fils aîné qui succède. Donc en tout cas à la mort de Philippe IV, il n'y a pas de question à se poser, Louis X arrive au pouvoir sans encombre juste après les funérailles de son père qui ont lieu donc en décembre 1314.
Louis XV, Philippe V, Charles IV ont respectivement 25, 21 et 20 ans. Quel sera leur règne respectif? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine avec Christelle Balouza-Loubet. Merci. Merci à vous d'être venu à ce micro. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Louis X, Philippe V, Charles IV, Les derniers Capétiens. Un livre paru aux éditions Passé Composé. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours d'histoire.